Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Pour l'instant, ça ne se passe pas si mal. Il y a bien les sondages qui témoignent d'une chute de sa popularité, mais c'est presque devenu la règle désormais. L'état de grâce ne dure pas plus de quelques heures, celui d'Emmanuel Macron est bel et bien passé. Il y a bien eu aussi quelques couacs cet été à l'Assemblée nationale. Des députés visiblement peu au fait des subtilités du travail parlementaire, mais l'inexpérience n'est pas faite pour durer. Les députés d'En Marche sont jeunes, à cet âge-là, on apprend vite. À défaut d'expérience, Emmanuel Macron peut compter sur la quantité, une large majorité à l'Assemblée et de nombreux alliés à droite comme à gauche. Dans l'opposition, seule la France insoumise semble en mesure aujourd'hui de lui faire un peu d'ombre. Au PS, au FN, chez les Républicains, on a pour l'instant d'autres chats à fouetter. Quant à la conjoncture économique, les indicateurs sont globalement favorables. Pour l'instant, ça ne se passe pas si mal. Mais l'exercice du pouvoir est ainsi fait que ça ne pourra pas durer. Alors qui va trahir Macron ? Eh bien, c'est le premier thème de débat de cette nouvelle saison, la deuxième du Club des idées du grain amour, un club un petit peu remanié. J'en profite d'ailleurs pour remercier à nouveau chaleureusement Ludivine Bantigny et Sylvain Kahn qui nous ont accompagnés tout au long de la première saison et pour accueillir une nouvelle venue dans ce club, Aude Lancelin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez publié l'an dernier aux éditions Les Liens qui Libèrent, Le Monde Libre, qui vous a valu de recevoir le prix Renaudot de l'essai. On peut vous lire dans le 1, dans le JDD. On peut également vous voir et vous écouter dans La Guerre des Idées. C'est une émission que vous animez à un rythme hebdomadaire, me semble-t-il, sur le site Là-bas, si j'y suis. Pour discuter avec vous ce soir, on le retrouvera là aussi tout au long de la saison, Philippe Manière. Bonsoir.
Bonsoir.
Consultant, éditorialiste à Challenge. Je cite le titre de votre dernier édito, parce que forcément il va faire écho à la discussion que nous aurons ce soir, Macron ou le danger de la demi-réforme. En gros, vous dites qu'il faut y aller franco quand on veut réformer et ne pas prendre des demi-mesures. Éditorialiste à Challenge, d'ailleurs, juste petite parenthèse, ce qui vous fait un point commun, ou ce qui vous faisait un point commun avec un certain Bruno Roger Petit, qui est désormais le porte-parole de l'Élysée, ce sera un bon porte-parole ? Vous le croisiez de temps en temps?
Je vais être très tranquille pour ne vous en rien dire, parce que je ne le connais pas du tout. Imaginez-vous que les éditorialistes ne se voient pas toujours, et je ne le connais pas du tout. Ouais, donc il est certainement très bien, mais je n'en sais rien.
Bon, on verra l'usage, comment il est. Notre troisième invité, enfin membre du club, présent ce soir, c'est Sylvain Bourmeau. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Professeur associé à l'EHESS, producteur de la suite dans les idées sur France Culture le samedi. Ça ne change pas. L'horaire, lui, est un peu modifié.
Et oui, c'est à 12h45 désormais que commencera l'émission, c'est-à-dire juste après le journal de la rédaction de France Culture.
Et ça se terminera à 13h30.
Ce qui veut dire que l'émission dure 15 minutes de plus.
Un quart d'heure de plus. Merci donc à tous les trois d'avoir accepté de participer à ce premier numéro. Donc je reprends la question telle qu'on a choisi de la formuler ce soir. Qui va trahir Macron ? Bah, la trahison, manifestement, elle est déjà un petit peu en marche avec la baisse de popularité d'Emmanuel Macron. C'est ce que disent tous les sondages. Alors soit on parle d'opinion favorable ou défavorable, de satisfaction. Bon, il y a des termes qui peuvent différer, mais on va en gros, la tendance est à peu près la même partout. Est-ce que vous y voyez quelque chose de finalement assez classique, Philippe Manière, sous la Ve République ? C'est-à-dire que, comme je le disais au début de manière un petit peu ironique, mais en tout cas, l'état de grâce est quelque chose qui dure de moins en moins longtemps.
C'est vrai aussi que quand on compare les courbes, celles-ci baissent plus vite que les autres. Donc le désamour pour Macron a été plus rapide qu'on aurait pu l'imaginer. Et j'allais dire d'autant plus, cette fois si on sort des chiffres pour essayer de raisonner un peu, d'autant plus que l'amour, enfin l'enthousiasme qu'il avait suscité dans les jours et les semaines qui suivaient son élection était quand même tout à fait extraordinaire. On n'avait pas vu ça depuis assez longtemps. Alors, est-ce qu'il faut y lire quoi que ce soit ? Moi, je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'on est dans une attente de toutes sortes de choses contradictoires dans ce pays. Ce pays sait qu'il ne peut pas rester tel qu'il est. Il a des atavismes, des attachements, des conservatismes. Et en même temps, il a envie de renouer avec sa fierté, qui en a pris quand même un coup au fil des années passées. Et donc, je pense que l'opinion ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, mais elle sait qu'il faut faire quelque chose. Mais en même temps, elle a des tas d'envies qu'on ne fasse pas telle ou telle chose. Et donc, tout ça crée une espèce d'ambiance que je trouve très particulière, hein, parce qu'on est quand même dans les 3 mois qui suivent l'élection. élections. Et on ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas très bien si les gens sont contents, pas contents. Il y a des espèces de succession d'épisodes relativement enthousiastes qui saluent. Vous voyez, je suis l'un des rares à trouver que c'est pas terrible sur les ordonnances travail. Aujourd'hui, vous avez plutôt pas une unanimité, bien sûr, il y a des oppositions, mais il y a un très large spectre d'approbation aujourd'hui. Et puis, il y a quelques jours, on disait que l'aventure Macron allait peut-être finir plus vite que prévu. Et si ça se trouve, dans 3 jours, on dira à nouveau que tout ça n'ira pas bien loin. Je trouve que c'est normal d'ailleurs, puisque le phénomène Macron est très particulier. Son positionnement est assez indescriptible. Sa personne est totalement atypique par rapport au personnel politique classique.
Ça devrait plutôt provoquer de l'adhésion que du désamour.
Ça provoque, à mon avis, les deux. Et c'est pour ça que moi, je donne assez peu de... Je trouve qu'il y a peu d'intérêt à suivre au jour le jour les courbes. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il va faire avec la popularité qu'il avait et dont je pense qu'il peut la conserver malgré les hauts et les bas des sondages.
Vous êtes d'accord avec ça, Lancelin, en tout cas sur le fait que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour juger du niveau d'adhésion qui est encore celui que recueille Emmanuel Macron?
Non, moi, évidemment, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'il s'agit quand même il faut le dire, du président le plus impopulaire de la Ve République, ce qui est effectivement une surprise tout de même.
Le plus impopulaire au bout de trois mois,
bien sûr. Oui, mais c'est un signal extrêmement inquiétant, si vous voulez. Bon, il est vrai qu'il était étonnant que les Français aient pu à ce point s'emballer pour, finalement, le ministre de l'économie de François Hollande, dont ils avaient rejeté très massivement quand même la politique et qui s'est quand même traduit économiquement par un désastre, c'est-à-dire des sommes énormes reversées au patronat et des créations d'emplois quasiment nulles, au contraire une consolidation du chômage de masse. Donc c'était très étonnant. Donc je sais bien que nous sommes un certain nombre à avoir parlé de bulles médiatiques, de bulles même de savon gonflé à l'hélium et à nous être fait tomber dessus comme si son élection prouvait qu'il ne s'agissait pas de ça. Mais je suis bien désolée, la bulle a éclaté. Elle a éclaté après l'élection. Et c'est vrai qu'on a quand même le sentiment d'avoir assisté à une espèce d'hypnose collective ponctuelle, hein, il faut bien le dire quand même, avec l'appui massif de toutes sortes de médias financés par le CAC 40, hein, qui aujourd'hui, au bout de 3 mois à peine, sont en train de tirer les fruits de cet investissement. Et je suis désolée, mais ce qui se passe aujourd'hui montre que les gens ne savaient pas quel genre de marchandises on était en train de leur vendre.
Des médias qui sont aussi de plus en plus critiques quand même à l'égard justement de Emmanuel Macron. Si on a ce sentiment et cette sensation que le président est beaucoup moins populaire, que sa politique peut être contestée, c'est aussi parce que la presse, et c'est normal, elle fait son travail, mais peut-être moins enthousiaste là aussi qu'elle n'a pu l'être il y a quelques mois.
Je suis d'accord avec vous. C'est presque un signal d'espoir d'ailleurs. D'une certaine façon, il a été tellement maladroit et hautain avec la presse que celle-ci a fini tout de même par se rebeller dans une certaine mesure dans les coins comme ça. Mais c'est vrai que j'ai encore dans l'oreille en fin de campagne Emmanuel Macron disant on ne préside pas en étant le copain des journalistes. Il visait évidemment certainement François Hollande, mais Emmanuel Macron est le copain des patrons des journalistes et d'une certaine façon pour nous tous, pour les journalistes et pour la démocratie, c'est beaucoup plus menaçant.
Sylvain Bourbeau.
Je crois que c'est ces chiffres de sondage qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, comme tous les chiffres de sondage, néanmoins sont intéressants à regarder. Parce que là, j'abonderais plutôt dans le sens d'Aude Lancelin. Je crois que c'est quand même du jamais vu. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez raison, Hervé, de dire que l'état de grâce dure de moins en moins longtemps après chaque élection présidentielle. Mais là, quand on compare avec la popularité des deux précédents présidents, c'est quand même assez spectaculaire. Et je crois...
Il faut d'ailleurs préciser que s'agissant de Nicolas Sarkozy, en 2007, après 3 mois, lui, sa popularité était en hausse. Légèrement, mais elle était en hausse.
Oui, il y avait une sorte de phénomène autour de la personne de Nicolas Sarkozy, de sa manière d'être président, qui clivait énormément, mais qui clivait, donc ça provoquait aussi un soutien très fort. Or, Ce que je crois de très inquiétant dans ce que ça traduit, ça me semble tout simplement être le symptôme d'une très profonde crise de la représentation politique, dont évidemment l'élection d'Emmanuel Macron est l'un des produits. Macron n'aurait pas été élu président de la République sans cette crise de la représentation politique. Et Macron a su profiter de cette crise. Il n'a pas été le seul à jouer de cette crise comme d'un thème électoral. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de lui reprocher. Cette crise est bien réelle et ce serait folie de vouloir l'ignorer. Mais je veux dire, chacun à sa manière. Jean-Luc Mélenchon aussi, avec son discours dégagiste. Et Marine Le Pen à sa manière, avec son discours du tous pourris ou du, bon, qu'on connaît par cœur. Au final, ces trois candidats qui ont été trois candidats importants de l'élection présidentielle pointaient cette crise en gros en disant « on va remplacer tout ça par autre chose ». Bon, c'est Macron qui a été élu et au bout de quelques semaines, je crois qu'un certain nombre d'électeurs se rendent compte que rien n'est remplacé. C'est pas parce qu'on fait une loi sur la moralisation politique que ça va véritablement changer en profondeur la politique professionnelle. Beaucoup d'électeurs, probablement, se sont rendus compte que finalement, c'était dans une certaine forme de continuité qu'Emmanuel Macron gouvernait. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de nouveautés. Et on a été obnubilé à raison par ça, parce qu'il s'agit de comprendre ce qui se passe. Mais au-delà de ces changements, il y a aussi énormément de continuité, et notamment du côté des politiques publiques. Là, on commence à le voir avec cette réforme sociale, et je pense qu'on le verra dans d'autres domaines. Donc, du coup, ce qui m'inquiète, c'est que Macron a grillé, d'une certaine façon, une cartouche par rapport à la nécessité qu'il y a de se ressaisir tous démocratiquement pour refonder la politique en France. Et derrière, le fait d'avoir grillé cette cartouche, on peut se poser la question de savoir à qui ça va profiter et quelles autres solutions. C'est toujours pareil. C'est la seule opposition à Emmanuel Macron, d'une certaine façon, c'est la candidate qui était face à lui au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Philippe Manier, Emmanuel Macron avait, il est vrai, promis une rupture dans la façon de faire de la politique, dans la façon d'animer la vie politique. Est-ce qu'au regard justement de ces premiers mois à la tête de l'État, on pourrait, puisque la question qu'on pose ce soir c'est qui va trahir Macron, avancer comme réponse que peut-être que lui a commencé à se trahir lui-même en ne renouvelant pas l'exercice du pouvoir tel qu'on pouvait s'y attendre?
Je ne suis pas tellement d'accord avec ça parce que... Personne n'imaginait, et d'ailleurs il ne l'avait pas promis, et d'ailleurs c'est tant mieux qu'on allait changer les institutions ou qu'on allait changer de régime. Donc à partir du moment où on garde les mêmes institutions et à partir du moment où il n'y a pas de modification sensible du régime, pour dire les choses, on est sous des contraintes qui font que ça ressemble forcément un peu à ce qu'on connaît depuis qu'on est sous la Ve République. Alors sous cette limite, sous cette contrainte, je trouve, ça m'ennuie, ça m'embarrasse un peu de défendre Macron, parce que je suis tout sauf macrolâtre, mes écrits parlent pour moi, mais je trouve qu'on ne peut pas nier qu'il y a pas mal de critères sur lesquels on ne peut pas discuter une forme de changement. Parfois, d'ailleurs, ce sont des changements qu'on peut désapprouver. Matignon est devenue une annexe très clairement de l'Élysée. Alors, elle a une figure, qui est d'ailleurs quelqu'un d'intéressant, Édouard Philippe, mais enfin, Matignon ne décide pas grand-chose. Les ministres sont très différents de ce qu'on a connu, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus pour leur expertise dans leur domaine, ils ont pour la plupart peu de poids politique, c'est très différent de ce qu'on a connu par le passé, où c'était presque systématiquement le contraire, c'est des gens qui étaient des figures politiques, mais qui, notoirement, ne connaissaient rien au sujet qu'on leur confiait.
Oui, mais alors,
ce qui, encore une fois, n'est
un
pas
instant,
forcément catastrophique, mais voyez, c'est un changement objectif.
Juste un instant, sur un de ces changements que vous décrivez, c'est-à-dire le fait que Matignon, finalement, soit une chambre d'enregistrement, sans doute davantage, par exemple, qu'elle ne l'était auparavant, ça témoigne d'une plus grande concentration des pouvoirs, ça n'est peut-être pas ce qui était attendu par ceux qui soutenaient Emmanuel Macron.
C'est en fait l'aboutissement de quelque chose qu'avait amorcé Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez de la fameuse appellation délicieuse collaborateur s'agissant de François Fillon. Ce que beaucoup d'entre nous n'avaient pas vu, en tout cas moi, c'est que le quinquennat, qui semblait intéressant parce que 7 ans c'est long, a changé énormément de choses en France. C'est-à-dire que la différence de longueur du mandat présidentiel et du mandat législatif faisait qu'il y avait deux légitimités potentiellement concurrentes, en tout cas alternatives, et autonomes l'une par rapport à l'autre. Dès lors que vous n'avez plus d'élections législatives, qu'au cul de la présidentielle, passez-moi cette expression, et pour la même durée, alors vous n'avez plus la moindre légitimité autonome du Parlement. Dès lors, le Premier ministre étant l'émanation de la majorité qui se dégage au Parlement, le Premier ministre n'a plus de légitimité autonome. Et donc, le quinquennat, dont on a mis du temps à mesurer l'impact, puis la première manière d'acter ça par Nicolas Sarkozy, puis la manière de l'acter finalement par Emmanuel Macron, tout ça, dans le fond, est assez logique, cohérent. Moi, je regrette, et je le dis d'autant plus volontiers que j'étais plutôt favorable au quinquennat, parce que naïvement, je pensais que c'était mieux d'avoir un mandat plus court, mais il faut acter qu'il n'y a plus de majorité autonome. Et donc, vous avez effectivement, naturellement, maintenant, un président qui est extrêmement puissant, et c'est encore plus vrai, compte tenu qu'il y a eu une alternance tellement spectaculaire au Parlement que 80% des députés sont novices et la plupart d'abord amoureux de Macron avant d'être quoi que ce soit d'autre. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est les conditions de l'expérience. Ça ne nous dit rien de ce qu'il va se passer en termes de politique publique. Ça ne nous dit rien de la capacité qu'aura Macron d'être à la hauteur de la promesse qu'il a suscitée et des espoirs qu'il a fait se lever, lesquels sont un peu lyriques, un peu ridicules à mes yeux. Mais peu importe, beaucoup de gens, au lendemain de son élection, se sont dit « Enfin, notre pays a de la gueule, il a l'air jeune, il a l'air entreprenant, etc. » Tout ça, évidemment, explique la déception qu'on a aujourd'hui, parce que le lyrisme, ça peut pas durer autant que les contributions. Mais ça ne nous dit rien de ce qui se passera, ni en termes d'action publique, ni en termes de succès de l'action publique. C'est pour ça que moi, je suis très sceptique sur l'intérêt des chiffres du désamour, si vous voulez.
Ouais, de Lancelin.
Non, mais il n'avait certes pas promis un changement de régime, on est d'accord, c'est pas lui qui a promis la 6e République, mais enfin, il y avait quand même une promesse de renouvellement, c'est évident, du moins certains y ont cru. En Marche a énormément communiqué pendant la campagne sur les petits donateurs, l'espèce de vague populaire comme ça, qui voulait un changement du vieux personnel politique, du vieux monde. Or, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un renforcement du pire de la 5e République.
Il y a quand même un renouvellement du personnel politique, enfin, il y a énormément de nouveaux députés.
Mais pas pour le,
pas forcément dans les
nouveaux ministres.
Pas pour le meilleur, malheureusement, mais ça c'est vrai. Mais on a eu un renforcement tout de même du pouvoir personnel, de l'opacité, de la tête d'épingle de l'État. On a tous eu ce ressenti dès les premiers jours. On a vu l'avidité avec laquelle Macron se jetait sur la pompe républicaine, les symboles régaliens avec une insistance extrêmement forte. On a l'impression, moi je vous le dis franchement, parfois je me demande s'il ne pense pas avoir été sacré à Saint-Denis plutôt qu'élu. Et malheureusement, non seulement il n'a pas été sacré à Reims ou à Saint-Denis ou ailleurs, mais il a été assez mal élu. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a certes été élu à plus de 60% face à la candidate du Front National, très bien. Ce ne sont pas les 82% de Jacques Chirac qui en dit long sur l'état du pays. Mais il a été élu avec un énorme nombre de votes blancs, d'abstention, de nini, de gens qui ont pour la première fois de leur vie, des militants de gauche, refusé d'aller voter pour lui dans un contexte de désintégration démocratique. Et moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, que j'ai l'impression qu'il prend la responsabilité personnelle de traverser cette crise sans l'affronter, de ne donner aucun gage de démocratisation véritable, et au contraire de renforcer toujours davantage la personnalisation du pouvoir. Et je pense que c'était un risque pour le pays, parce que l'opposition étant à terre en grande partie en ce moment, soit c'est la neurasthénie et les gens attendent 5 ans que ça passe, soit c'est la violence.
Emmanuel Macron vient de donner une interview au magazine Le Point, longue interview dans laquelle il est interrogé évidemment sur sa politique et sur sa pratique du pouvoir. Sylvain Bourmois, est-ce qu'il n'y a quand même pas justement des indices, peut-être d'une prise de conscience, ne serait-ce d'ailleurs que le fait que de donner cette longue interview, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a peut-être eu un démarrage qui n'était pas le bon, mais finalement ça, c'est ce qu'on pourrait sans doute reprocher à chacun de ses prédécesseurs.
Il a probablement compris que l'attitude hautaine dont parlait de Lancelin qu'il a eue avec la presse ne l'a pas aidé. Peut-être essaie-t-il de recoller quelques morceaux en changeant sa politique de communication, en faisant venir le journaliste dont nous parlions tout à l'heure à ses côtés, par exemple, en donnant cet entretien. Je pense que c'est pas ce type de choses qui va changer quoi que ce soit en profondeur. Encore une fois, je voudrais insister sur la rapidité avec laquelle ce discrédit ou cette défiance politique s'est installée. Et je pense qu'elle ne tient pas que à la personne d'Emmanuel Macron, elle tient à cette crise de la politique dont je parlais tout à l'heure et qui n'a pas commencé avec Emmanuel Macron. Au contraire, Emmanuel Macron est le produit de cette chose.
Est-ce qu'elle pourrait tenir aussi à certaines de ses décisions ou bien est-ce que vous considérez que là, c'est trop tôt mais, et qu'on ne peut pas juger des décisions, parce qu'il n'y en a pas eu suffisamment.
Ce qui m'inquiète au plus haut point, au fond, c'est je voudrais revenir sur cette idée de responsabilité parce que je pense que Emmanuel Macron prend une responsabilité considérable, a pris une responsabilité considérable en choisissant, en ayant pour stratégie, de dynamiter ce qui fondait la vie politique française depuis la Révolution, à savoir le clivage droite-gauche. Remettre en question ce clivage et le remettre systématiquement en question par tout un tas de décisions, de stratégies politiques qui ont eu pour objectif de déstabiliser aussi bien la droite classique que la gauche classique. On voit dans quel état les deux partis principaux de gouvernement se trouvent aujourd'hui. C'est prendre une responsabilité considérable. Je l'ai dit à maintes reprises durant la campagne, c'est-à-dire parce que en face d'Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen qu'on avait. Donc dès lors qu'on affaiblit ce clivage, Emmanuel Macron met la barre très très haut pour lui-même. Soit il est capable de trouver une solution, soit on se demande ce qui va se passer. Or, ce qui apparaît là depuis quelques semaines, et c'est d'autant plus frappant que tout le monde, beaucoup de commentateurs, ont plutôt bien reçu ce qu'on a appelé la séquence diplomatique d'Emmanuel Macron. Il est apparu à la hauteur des enjeux, à l'initiative, dans ses relations aussi bien avec le président américain que le président russe, etc., en Europe. Donc, de ce point de vue-là, l'image du président français était plutôt forte. Donc, on aurait pu imaginer que ça se traduise dans ces sondages, qu'au moins une partie des électeurs se trouve bien représentée de ce point de vue-là. Eh bien, même ça n'a pas suffi, visiblement, à masquer ce qui inquiète plus profondément les gens, à savoir, finalement, cette idée que la politique n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu l'affaire Bayrou, qu'il y a eu l'affaire Ferrand, qu'il y a les questions qui se posent sur Madame Pénicaud. Et donc, aujourd'hui, ça pèse très lourd. Et puis d'autre part, les gens réalisent que finalement, la politique mise en œuvre sur le plan social, ben c'est dans la parfaite continuité des lois El Khomri. Donc, au fond, qu'est-ce qui a changé ?
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Et c'est comme chaque vendredi, depuis l'an dernier, et ça continue cette année, le Club des idées du grain, en compagnie cette semaine de Sylvain Bourmeau, de Philippe Manière et d'Aude Lancelin. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Sylvain Bourmeau, s'agissant de la responsabilité qu'a pris Emmanuel Macron de faire éclater le clivage droite-gauche. Alors c'est vrai qu'on voit bien quand même à quel point les partis de gouvernement, comme on les appelle, les Républicains, le Parti Socialiste, sont extrêmement déstabilisés. Peut-être pas uniquement d'ailleurs par les actions d'Emmanuel Macron. Ils se sont aussi déstabilisés eux-mêmes, mais avec ces alliances dont on ne sait pas justement si elles vont durer. Est-ce que les constructifs peuvent être des alliés fiables? Est-ce que le MoDem, qui effectivement était l'allié principal de La République En Marche, mais qui a connu quelques déboires avec ses ministres qui ont dû tous démissionner du gouvernement, Édouard Philippe I, est-ce que cet allié est un allié fiable? Puisqu'on pose la question de qui va trahir Macron, sur quelle majorité peut s'appuyer aujourd'hui le président de la République, Philippe Manière? Est-ce qu'il y a des risques et de la part de ses alliés et peut-être également en interne, comme a pu le connaître par exemple François Hollande avec les fameux frondeurs?
Alors ça, je ne crois pas à court terme, parce que, encore une fois, le Parlement est principalement constitué, et la majorité a fortiori, principalement constituée de novices qui sont là parce qu'ils ont été désignés par le chef et qu'ils aiment le chef. Donc l'idée même qu'on puisse avoir une sorte de distanciation avant un certain temps, avant que ces gens-là atterrissent, posent les bagages, imaginent éventuellement une vision alternative, c'est une hypothèse très 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 forte que je ne retiens pas. En revanche, à terme, précisément au titre de ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est-à-dire que cette espèce de motion de synthèse permanente, cet en même tempisme qui est le mode de fonctionnement du pouvoir, c'est ni à droite ni à gauche, et sachant que en fait, les gens qui sont à En Marche viennent pour certains de la gauche et d'autres de la droite. Vous avez un risque qu'au fur et à mesure que des mesures seront soumises au Parlement, eh bien, les gens qui viennent de la droite de temps en temps trouvent que telle mesure est un peu trop à gauche et donc s'en distancient et aient tendance à penser un peu comme l'opposition de droite, si tant est qu'elle se réveille elle-même. Ou symétriquement, si on prend des mesures qui semblent un peu libérales, alors les macronistes venus de la gauche vont peut-être être tentés de critiquer la mesure. Mais à mon avis, ça n'arrivera pas avant un certain temps. C'est pour ça que moi, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne finira pas par être très impopulaire, Emmanuel Macron, et que ça sera inquiétant quand ça aura duré. Mais aujourd'hui, ça ne me paraît rien signifier parce qu'encore une fois, on n'a pas encore vu de politique publique discutée au Parlement. Enfin, soyons sérieux, les ordonnances, précisément, c'est des ordonnances, elles n'ont pas été discutées au Parlement. Et donc, on n'a pas eu d'occasion de voir le Parlement confronté au désir de l'exécutif. C'est ce qui va se passer maintenant, au fur et à mesure qu'on aura d'autres textes, à commencer par ce qui est un acte fondamental, pas seulement sous la Ve République, mais dans toutes les démocraties, c'est-à-dire la discussion budgétaire. On va avoir, commençant dans quelques semaines, une discussion budgétaire où là, pour le coup, on peut voir ressortir les clivages. Les mesures qui sont proposées par Emmanuel Macron, en tout cas par son gouvernement, sont des mesures de baisse de la fiscalité. À mon avis, quoi qu'on pense, au fond, sont peu contestables compte tenu de la hausse de la fiscalité qu'il y avait avant. Et à partir du moment où on ne veut pas continuer comme avant, c'est assez normal de la baisser si on pense que ça n'a pas marché de la monter. En tout cas, c'est clivant la fiscalité. Quand vous augmentez la fiscalité, vous mettez à dos un certain nombre de gens. Et quand vous la diminuez, vous mettez à dos un certain nombre de gens. Donc là, on va commencer. Quand les politiques publiques vont être soumises au Parlement, on commencera à avoir des clivages. Mais à mon avis, ça ne se traduira pas par une défection avant assez longtemps.
À propos du personnel politique d'En Marche, et notamment ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, je voulais ajouter à la décharge d'Emmanuel Macron, qui n'a pas été franchement aidé par le casting mené, qui a consisté à recruter des gens. Bon, peut-être que parmi cet ensemble assez conséquent de députés, quelques-uns sont brillants et on ne les a pas encore vus, mais ceux qu'on a vus jusqu'à présent, c'est le contraire. C'est-à-dire des gens qui ont desservi considérablement Emmanuel Macron, et jusqu'y compris celui qui est le chef de file de ses députés et qui est à l'origine de beaucoup de ces couacs parlementaires, qui pourtant, lui, avait une expérience parlementaire. Je veux parler de M. Richard Ferrand. Donc, qui a été
un parlementaire réputé.
Non, avant. Voilà, mais il a fait l'objet...
Lui, en tout cas, était parlementaire.
Il a quand même trouvé le moyen de faire l'objet de critiques de la part de parlementaires novices pour la manière dont il a mené ou pas mené précisément un certain nombre de votes à l'Assemblée. Donc c'est vrai que là, on peut s'interroger sur comment dire ce qui a consisté à passer du tout au tout. C'est-à-dire que c'est évident qu'on avait un personnel politique usé, cumulard, dans le temps, et qu'il fallait procéder à un renouvellement conséquent. Mais changer tout avec que des gens qui changent et le faire selon les méthodes des DRH d'entreprise et dans un esprit de start-up, je ne suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire pour renouveler le personnel politique. Et ça, je veux dire, je pense qu'on en a vu que les débuts, parce qu'effectivement, ce Parlement n'a pas siégé. Je pense qu'on se réserve des moments intéressants.
Lancelin, sur la question des clivages, une des questions, en fait, pour l'avenir, c'est aussi de savoir, pour savoir justement si cette alliance qu'a réussi à composer Emmanuel Macron sera durable, c'est aussi de savoir si le pari qu'il a fait d'une disparition des clivages était un véritable constat d'un changement structurel, ou bien est-ce qu'on est simplement dans des alliances qui ne sont que conjoncturelles et avec l'idée que, en fait, la gauche et la droite, ça continue bel et bien à exister, même si ça n'apparaît pas d'une manière aussi nette dans le paysage politique actuel.
Non, mais si vous voulez, Emmanuel Macron est la facture de 30 ou 40 années de politique socialiste finalement dévoyée en réalité. Voilà, c'est pas lui Emmanuel Macron qui a désintégré tout le paysage politique français. Il a hérité d'une situation totalement décomposée. C'est quand même le Parti socialiste qui l'a mis au pouvoir, Emmanuel Macron, avant l'élection présidentielle. Donc il n'est pas arrivé là par hasard. Bon, alors évidemment le clivage droite gauche, lui, il va se reconstituer d'une autre autre façon. Il est peut-être déjà en train de se reconstituer d'une autre façon à partir de la France insoumise. Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Et pour revenir à ce que disait Philippe Manière, qui minimise un petit peu les turbulences actuellement traversées par Macron et les difficultés profondes qu'il rencontre dans l'opinion, moi je pense au contraire que les gens sont en train de comprendre ce qui se passe, qu'on est dans le dur, là, qu'on est à l'os. C'est-à-dire que, en fait, les gens sont en train de comprendre que sous les dehors de fraîcheur, de renouvellement intégral du personnel, on est en train de leur resservir les vieilles recettes. Les vieilles recettes qui ont échoué en termes d'emploi, les vieilles recettes qui suscitent la colère partout dans les peuples européens, c'est-à-dire l'obsession des 3%, c'est-à-dire la rigueur budgétaire, c'est-à-dire toute une idéologie économique usé, qui n'a pas profité à la France jusqu'ici. Et je vous donne une preuve de ça, me semble-t-il. À partir de quel moment il décroche en plein été, je laisse de côté l'affaire avec l'armée française qui n'était certes pas très habile, mais à quel moment il décroche? Quand les gens comprennent que d'un côté il est en train de prendre de l'argent dans la poche des étudiants, de leurs enfants, et que de l'autre côté, une baisse de l'ISF de 3 milliards d'euros colossale sur les patrimoines financiers est en train de se mettre en place. Et ce qui se passe aujourd'hui à la rentrée, malheureusement, ne fait que confirmer ça. Quand on voit le contenu des ordonnances publiées hier, ça ne peut que conforter les gens dans cette opinion. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, il est là pour livrer pieds et poings liés, tout le salariat français à ses patrons. Et je pense qu'il serait quand même, dangereux de réduire ça, de réduire ce sentiment parce que je pense sincèrement que les gens n'ont pas voté pour ça, moi. Je pense que le socle électoral, d'abord, d'Emmanuel Macron au premier tour, il était très bas, il était à 11%. Et je pense que les gens, beaucoup de gens se sont laissés avoir par la saga enchantée, par le jeune homme brillant, par Paul Ricoeur, par Dieu sait quoi. Mais ils n'ont certainement pas voté pour voir un basculement total de tout notre système social de sécurité en France.
Philippe Manière.
Non, mais je vais pas gaspiller le peu de temps qu'il nous reste, ni ma salive à dire à quel point je pense que l'analyse que vient de faire Aude, et que je respecte, mais est mal fondée en fait. C'est-à-dire que s'il y avait de la rigueur dans ce pays, ça se saurait. Il y a certainement du malheur, il y a certainement de la misère, mais il n'y a strictement aucune rigueur au sens technique. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de diminution des budgets publics. La France est le pays de l'OCDE où il y a le plus d'impôts rapportés au PIB, le pays où
dans
il y a le plus de dépenses publiques rapportées au PIB. Donc on peut dire plein de choses, mais il y a des sujets d'opinion, il y a des sujets de fait. C'est un fait, la France n'est pas un pays de rigueur. Il y a d'autres pays qui ont subi la rigueur, mais pas la France. Nous sommes le tout dernier pays qui n'est pas rentré dans les 3%, à part la Grèce et quelques pays qui ont misérablement été affectés.
C'est l'objectif du gouvernement, vous le reconnaissez, actuel.
Mais évidemment, c'est le dernier qui ne l'a pas tenu. Donc, si vous voulez, et comme vous savez, les autres qui tiennent cet objectif, voire qui sont en excédent, prenons un exemple au hasard, la Suisse, les Pays-Bas, etc., sont plutôt bien mieux portants que nous, sur tous les critères qui vous tiennent à cœur, j'espère, c'est-à-dire le chômage, la croissance. Bon. Mais sortons de cette... ce débat sur les faits. Je maintiens qu'on n'a encore rien vu de ce qu'il faisait. Ce qui, d'ailleurs, à certains égards, moi, m'inquiète. C'est parce que vous trouvez, Aude, et c'est votre liberté, que les ordonnances livrent pieds et poings liés, les salariés, etc. Moi, je suis, au contraire, assez inquiet de voir le tonnerre d'applaudissements qu'on a vu aujourd'hui de la plupart des syndicats et du patronat, qui, à mon avis, manifeste qu'on est dans un conservatisme assez fort. C'est-à-dire que personne n'a perdu son fromage.
Vous auriez préféré qu'ils expriment davantage d'opposition, ça aurait été meilleur.
Absolument. Je tiens, sur la base de l'expérience internationale et de ma petite connaissance d'un certain nombre de pays qui ont fait des réformes sérieuses, qui étaient confrontés à la même impasse budgétaire identitaire que la nôtre, je tiens que on ne fait pas les réformes nécessaires dans ce type de circonstances sous les applaudissements du public. Donc, premièrement, du point de vue de celui qui fait la politique, il ne faut pas chercher à être applaudi. Deuxièmement, du point de vue du commentateur, quand tout le monde applaudit, c'est un indice assez fort qu'il ne s'est rien passé.
Donc une bonne réforme, c'est forcément une réforme impopulaire.
Malheureusement, compte tenu de l'état dans lequel nous sommes, c'est-à-dire les déficits, c'est pour boucher les déficits, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous montez les impôts, soit vous taillez les dépenses. Ni l'un ni l'autre ne sont populaires. Donc à gauche, on va nous dire qu'il faut augmenter les impôts. À droite, on va nous dire qu'il faut tailler les dépenses. Peu importe, ça ne peut pas être populaire. On s'est mis dans une situation d'impasse qui, malheureusement, est insoluble sans des réformes qui, d'une manière ou d'une autre, seront impopulaires. Donc quand tout le monde est content, c'est pas bon signe. Et c'est pour ça que je reviens à notre sujet d'impopularité. Ce qui, à mon avis, est susceptible de trahir Macron, ça n'est pas aujourd'hui le fait que le désamour, la bulle, vous appelez ça une bulle ou autre, je comprends très bien votre thèse et je la partage à certains égards. Oui, il y a cet effet-là, mais c'est sans grande importance. Ce qui, à mon avis, peut le trahir, c'est lui-même. C'est-à-dire que s'il ne fait pas ce qu'il nous a promis,
c'est-à-dire une transformation du pays. Vous savez, son positionnement, c'est « moi, je ne veux pas faire de la réforme, ça c'est pour lever de la gueule les petits pays qui veulent rentrer dans le rang ». Non, nous, nous sommes un grand pays et donc nous nous transformons. Mais pour transformer le pays, il faut le changer vraiment. Et si vous faites des petits machins à la petite semaine, vous ne le transformez pas. Et donc là, vous créez effectivement une déception. Donc moi, je pense que celui qui est le plus susceptible de trahir Macron, dont les ambitions sont quand même considérables, on peut les partager ou pas, mais elles sont considérables, dont les ambitions sont conceptuellement très intéressantes. L'interview au Point, encore une fois, je suis pas un inconditionnel de Macron, mais cette interview du Point est intellectuellement très solide, elle est très intéressante. C'est très longtemps que j'ai pas vu un président de la République dire autant de choses qui ont une vraie hauteur de vue, une vraie cohérence. Encore une fois, on peut être en désaccord complet, hein. Moi je suis pas d'accord avec tout, mais ça a de la gueule. Donc il faut qu'il livre par rapport à ses promesses qu'il a faites. Il est quasiment dans une position de démiurge. Et si vous avez fait des promesses considérables, si vous avez promis aux gens des lendemains qui chantent, vous ne pouvez pas espérer ne pas être trahi par vous-même si vous ne faites pas des choses très considérables. Et pour le moment, je trouve que c'est pas très considérable.
Bon, j'en déduis, Philippe Manière, que vu le niveau d'impopularité avec lequel François Hollande a terminé son quinquennat, c'est qu'il avait peut-être fait d'excellentes réformes pendant...
Alors, il y a d'autres raisons d'être impopulaire, hein, mais vous avez raison, ce paradoxe est plaisant.
C'est pas bon mot.
Sur rester sur la question de la trahison, qui était le thème de ce soir, je pense, comme Philippe Manière, en l'espèce, qu'il n'y a que Macron lui-même qui est amené peut-être à se trahir. Parce que ces députés qui ont été recrutés à va-vite, pour les raisons qui ont été très bien dites précédemment, je les vois mal trahir Macron. La question ne se posera pas comme ça. Et puis, la question de la trahison ne se posera pas pour tous ceux qui n'ont jamais adhéré à Macron, qu'ils soient de gauche ou de droite. Or, je pense que ce qui guette Macron bien plus que la trahison, sauf peut-être celle de lui-même, c'est le débat tel qu'on vient de l'avoir ici, entre Aude Lancelin et Philippe Manière, c'est-à-dire de générer et de ne produire que des mécontentements, un mécontentement de gauche et un mécontentement de droite. Moi, au fond, ça me réjouit parce que je vois le clivage droite-gauche auquel je tiens tant réapparaître, et j'espère qu'il va réapparaître au plus vite et qu'il va restructurer la vie politique au plus vite. Après, la manière dont organisationnellement, en termes partisans, tout ça va se mettre en œuvre, on verra. Mais en tous les cas, ce qui peut conduire Macron aux plus grandes difficultés, c'est pas tant les trahisons des uns ou des autres que les déceptions, l'envers au fond de son en même temps. Il va être pris entre deux fronts, il va être broyé. Et si on avait un parlement biface comme en Grande-Bretagne, il serait écrabouillé entre les bancs des deux côtés. C'est ça qui guette Macron.
Bon, vous seriez d'accord, Aude Lancelin, pour conclure sur cette idée que le meilleur ennemi ou le pire ennemi de Macron, c'est lui-même?
Ah oui, moi je depuis le début j'observe les failles narcissiques notamment dont on parlait tout à l'heure qui le mettent en danger. Mais juste pour terminer, peut-être, je suis très surprise de vous entendre dire, Philippe Manière, que les syndicats ont applaudi à cette réforme, parce que d'une part, bon, la CFDT n'a absolument pas applaudi, la CGT manifeste le 12 septembre. Quant à FO, on se demande vraiment ce qui s'est passé en coulisses pour arriver à cette dérobade.
Ah, donc tout ça ne fait pas des acclamations quand même. Vous avez vu comme moi déjà des réformes sociales. C'est vraiment, enfin moi je n'avais jamais vu les syndicats accueillir avec aussi peu de hurlements une réforme sociale. Alors bien sûr, la CFDT qui cherche à se distancier, vous savez, bien décrit par les spécialistes, hein, c'est des questions d'entomologie, c'est des plaisirs d'entomologie quand même. Hein. CFDT a besoin de manifester qu'elle n'était pas complètement complice. La CGT est toujours contre, donc elle manifestera. On verra si le cortège est important. Ce sera pour le coup une mesure au moins aussi intéressante que l'impopularité mesurée par les sondages. Et puis vous avez d'autres syndicats qui ne commandent pas pratiquement. Et le patronat est assez content, ce qui là aussi n'est pas bon signe à mon avis. Parce que ce qui est pathologique, c'est l'impasse dans laquelle était le paritarisme. Et donc en fait, tout le monde est content parce que rien ne va changer en quelque sorte. En tout cas, beaucoup de choses ne vont pas changer.
El Khomri était plus audacieuse. Qui change s'agissant du dialogue social, donc le paritarisme, il en prend quand même un coup.
Non. Regardez de près, c'est la splendeur des branches. Ces textes donnent beaucoup de pouvoir aux branches. Les branches, c'est le lieu improbable où se réunissent les hiérarques syndicaux, patronaux et ouvriers. Et c'est un endroit qui, à mon avis, a fait beaucoup de tort au pays depuis assez longtemps, mais dans lequel les gens sont très heureux d'être, évidemment. Et donc, si vous les voyez presque tous, ceux qui sont habitués au paritarisme, dire bah, tout ça est bien, c'est probablement qu'on n'a pas changé leur petites habitudes, ce qui, à mon avis, est un signe assez sûr qu'il ne va pas y avoir de changement profond.
Bon, en tout cas, ce qui est intéressant dans la discussion qu'on a eue ce soir, il y avait énormément de choses, évidemment, mais c'est aussi de se dire que, bah, évidemment, au bout de 3 mois, même s'il y a quand même des signes qui semblent assez significatifs, on ne peut pas encore, évidemment, juger complètement ce qu'est l'action d'Emmanuel Macron. Je dis que c'est intéressant et c'est rassurant, parce que ça veut dire qu'on a encore plein de rendez-vous, tous ensemble, le vendredi, dans le cadre du Club des idées du Grain, pour parler de politique. On ne parlera pas que d'Emmanuel Macron pendant toute l'année, ça pourrait finir par être un petit peu fatigant, mais on fera comme l'an dernier en essayant aussi de trouver d'autres thèmes. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à ce premier numéro du club. Aude Lancelin, Philippe Manière et Sylvain Bourmeau. Sylvain, donc, qu'on retrouve demain dans la suite, dans les idées, à 12h45. Et je vous donne pour ma part rendez-vous à midi, donc un petit peu avant la suite dans les idées, pour une nouvelle émission qui s'appelle Politique, qui va parler de politique et qui recevra demain comme premier invité Thierry Breton, ancien ministre de l'économie et des finances. Voilà, merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Eva Pellerin, émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean Frédérix.